Vandana Shiva est née dans un village du nord de l'Inde en 1952. Écologiste, écrivaine et féministe, elle est aujourd'hui l'une des militantes les plus connues dans le monde, opposante historique aux OGM et à la brevetabilité du vivant. Elle s'est fait connaître pour son combat pour une agriculture paysanne traditionnelle et biologique. En 1993, elle reçoit le prix Nobel alternatif. Vandana Shiva publie aujourd'hui 1% aux éditions Rue de l'Échiquier. Ce 1%, c'est le club des milliardaires qui règne sur la planète et qui domine l'économie, l'alimentation ou l'énergie. Elle appelle dans son ouvrage à la création d'un mouvement qui reconnaisse les droits de la nature afin de lutter en faveur de la diversité biologique et des cultures. Elle est mon invitée dans un instant et vous pouvez lui poser toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au menu dans un instant.
Eh bien, on va reparler des pesticides. Le ministre de l'Agriculture l'a redit ce matin. La distance, c'est 10 mètres. C'est pas lui, mais c'est la science qui le dit.
Dans la deuxième demi-heure, un nouveau reportage de Guy Vangtil dans la forêt amazonienne auprès des populations autochtones qui luttent pour ne pas disparaître. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Gaël Giraud, un scientifique du CNRS qui demande que les articles concernant le dérèglement climatique soient en accès libre dans les médias français. Et puis enfin, notre invité découverte est le musicien Marc Serron. Il sort un nouveau titre et un clip intitulé The Impact. Il vient nous en parler tout à l'heure parce qu'évidemment, ça a un rapport avec l'environnement. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Michel Bézikian et Patrick Henry.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Vandana Shiva.
Hello.
Bienvenue, vous êtes actuellement en France pour ce livre qui paraît 1% et qui est donc sous-titré « Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches » et qui sort aux éditions Rue de l'Échiquier. Et c'est Xavier Combes d'ailleurs qui assure la traduction de cet entretien. Avant justement d'en parler, de découvrir ce livre, est-ce que vous pourriez nous dire Vandana Shiva ce qui vous a sensibilisé, vous d'abord, aux questions environnementales dans les tout débuts de votre parcours, vous qui êtes donc né en Inde?
I've grown up in the Himalayan forest.
Eh bien, moi, j'ai grandi dans la forêt de l'Himalaya.
But it was when I saw a forest disappear before
Mais
going for my PhD to Canada, I wanted to trek.
J'ai vu une forêt disparaître avant de partir au Canada pour mon doctorat. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on était en train de détruire la planète. Et c'est là que j'ai entendu parler de ce mouvement des femmes Chipko, les femmes qui prennent les arbres dans leurs bras. Et donc, j'ai été bénévole et je me suis lancé comme militante. Donc, j'ai fait l'université Chipko pour l'activisme environnemental. Là, on est au début des années 70. Hein.
Donc effectivement, vous avez fait des études au Canada, vous êtes ensuite rentrée en Inde, vous avez eu un poste d'enseignante-chercheuse à l'université de Bangalore, et que vous avez d'ailleurs abandonné pour défendre l'agriculture et les Indiens en particulier. Pour quelles raisons vous avez arrêté finalement d'enseigner?
I was invited by the Ministry
en 1981, j'ai été invité par le ministère de l'Environnement pour faire une étude d'impact sur l'activité minière dans la vallée où je suis né. Mais à cette époque, je travaillais à Bangalore, vous l'avez dit.
Et
je me suis dit, mais oui, c'est de là que je viens, je suis attaché à cette vallée, et cette vallée est en train d'être détruite. Et je vais étudier cela. Parce que nous avons démontré que le calcaire était comme un réservoir naturel d'eau. Et il aurait fallu dépenser 100 ou des milliers de fois plus d'argent pour apporter de l'eau dans la vallée si l'activité minière continuait à détruire ce réservoir. Et la Cour suprême a dit que le commerce doit s'arrêter lorsqu'il détruit l'environnement, parce que conformément à la Constitution indienne, il faut défendre le droit à la vie pour tous les citoyens. Et donc, moi, je me suis dit, si une petite étude peut sauver une vallée toute entière, eh bien, les universitaires et les institutions doivent faire de nombreuses choses. Parce que moi, je me suis dit, je vais consacrer ma vie aux études avec les communautés pour défendre la terre. Et c'est ainsi que je me suis lancé en créant une fondation. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré après avoir grandi donc, dans un milieu paysan.
Est-ce que les questions environnementales aujourd'hui émergent également dans la société indienne, dans les médias en particulier? Est-ce qu'on en parle beaucoup comme c'est le cas ici en France ou dans d'autres pays européens?
CIPCO actually preceded the contemporary ecology movement.
Avant le mouvement d'écologie, il y avait ce mouvement CIPCO qui était le mouvement pionnier. Et bien, il y a des mouvements qui sont très puissants, on se bat contre les activités minières, contre la destruction des forêts et ainsi de suite. La lutte contre les pesticides continue, ce depuis 1984 et le désastre de l'usine à Bhopal, Union Carbide, mais il y a une grande différence. Les activistes sont considérés comme des criminels en Inde parce que le développement, les autoroutes, les barrages, les centrales nucléaires, les aéroports, eh bien, tout ça, ça fait partie des priorités de développement de l'Inde, alors que ce n'est pas vraiment du développement, c'est simplement des projets. Et on détruit l'infrastructure de la vie au profit de l'infrastructure bétonnée. Donc, il s'agit de civilisation écologique, alors qu'en fait, on est en train de prendre ce qu'il y a de pire dans la civilisation occidentale en prétendant que c'est ça l'avenir. Voilà, c'est ça la société indienne à l'heure actuelle.
Alors justement, c'est très étonnant, Vandana Shiva, parce que dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui, il y a toujours cette fascination pour l'Inde, qui remonte d'ailleurs aux années hippies, hein, qui semble toujours perdurer, avec cette idée donc de la sagesse indienne. Et l'Inde, vous venez le dire, a évidemment ses faces sombres, avec celle également de la violence quotidienne, des discriminations, par exemple, faites aux femmes ou aux plus pauvres. Comment est-ce que vous expliquez cette vision finalement très romancée qu'on a de votre pays, ici, en France, en Occident en général ?
C'est une civilisation incroyable, l'Inde, il y a une diversité étonnante, il y a toute une spiritualité, et les gens de l'Occident viennent en Inde pour cela. Mais l'Inde porte une double charge à l'heure actuelle. D'abord, il y a les inégalités et les discriminations, et puis les systèmes de caste aussi. Mes parents étaient contre les castes, à tel point qu'ils ont retiré le nom de caste de leur nom, et Shiva, c'est simplement un nom qui une protestation. Bon, mon grand-père, lui, a consacré sa vie pour l'éducation des femmes dans les zones rurales. Il a créé une école au péril de sa vie. Donc, il y a tout ça en Inde. Mais nous avons le nouveau système des inégalités que j'évoque dans mon livre. Et l'Inde est le laboratoire pour la prochaine étape de la colonisation, tout comme la Compagnie des Indes orientales était mise en place pour coloniser l'Inde. L'Inde, c'était la destination parce qu'il y avait une connaissance incroyable et puis un marché ô combien géant. L'Inde, c'est un immense marché, mais nous avons des connaissances, anciennes, mais nous sommes aussi très forts en logiciels, en informatique et ainsi de suite, notamment à Bangalore. Alors, et à mesure que les grands empires sont en train de croître, eh bien, il y a l'informatique, la biotechnologie qui sont en pleine fusion. Et donc, l'Inde fait l'objet d'un assaut, d'une agression de la part du monde occidental qui veut puiser et piller un petit peu toutes ses ressources intellectuelles et autres.
Alors justement, on retrouve des Indiens aussi dans cette liste des 1% hein, du club des milliardaires. C'est vraiment le cœur de votre réquisitoire contre cette prise du pouvoir finalement de cette minorité dans le monde, mais qui semble dominer absolument tout. Et puis il y a cette figure de Bill Gates que vous ne lâchez pas du début jusqu'à la fin de votre livre. Qu'est-ce qu'il incarne justement Bill Gates pour vous ?
You know, I'd have ignored a man like Bill Gates. But it's the way he has
Je n'ai rien contre l'individu Bill Gates, mais contre ses agissements. Il a pris position dans des espaces souverains. Il a envahi l'Afrique avec son alliance pour la révolution verte en Afrique. Mais c'est une révolution qui n'a pas marché en Inde. J'ai écrit un livre là-dessus. Lui, il veut faire la même chose en Afrique. Et il force les Africains à utiliser des engrais chimiques et il rend illégal le fait que les paysans puissent garder leurs semences. Tout ce qu'on a essayé d'interdire en Inde, lui, il est en train de faire la même chose en Afrique, mais ici à Paris. Au sommet du climat en 2015, il était très important, plus important que les chefs d'État. Il a attaqué la Terre deux fois. D'abord, la géo-ingénierie, et la géo-ingénierie pour l'ensemble de la planète, pour créer de la pollution dans l'atmosphère, pour bloquer les rayons du soleil, pour prétendument refroidir la Terre. Idée stupide, parce que le système climatique de la Terre s'en trouve
stabiliser. Il faut d'abord savoir de quoi on parle et on ne crée pas plus de pollution pour éviter la pollution. On ne crée pas plus d'instabilité pour lutter contre la déstabilisation du système terrestre. Deuxième attaque dont il s'est vanté encore, c'est les nouvelles technologies d'ingénierie génétique, CRISPR-Cas9, les nouvelles techniques génétiques, des nouveaux brevets sur le vivant, tout ce qui ont montré des échecs dans l'univers de Monsanto, eh bien, il essaye de tourner cela en succès dans le monde de Bill Gates. Donc lui, il prend tout ce qu'il y a de mauvais chez Monsanto et il essaye de créer de nouveaux empires au détriment de certains pays et de peuples. Il est en train d'envahir l'Inde en interdisant les devises locales pour forcer les gens à utiliser ces logiciels pour évidemment avoir une rente. À tous les niveaux, c'est lamentable. Le paysan connaît la terre. Bill Gates, lui, il veut faire du data mining pour qu'il y ait des données informatiques sur le terrain que le paysan connaît fort bien pour pouvoir évidemment exploiter la terre. Et moi, j'adore mon pays, j'adore l'Inde, j'adore les paysans, j'adore mon peuple et je me battrai jusqu'au bout pour les défendre.
Bon, en tout cas, vous êtes très sévère à l'égard de ces milliardaires. Vous dites que c'est finalement cette dictature des colonisateurs façon Christophe Colomb, et heureusement vous avez quand même des idées pour en sortir. On en parlera dans la deuxième partie de cet entretien, Vandana Shiva, puisque vous êtes notre invité aujourd'hui dans La Terre au Carré à l'occasion de ce livre 1%, reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches, qui paraît rue de l'Échiquier. À tout de suite avec les auditeurs de l'émission
France Inter, La Terre au Carré.
Et justement, Camille Crenier, vous nous parlez des pesticides aujourd'hui.
Oui, vous l'avez certainement entendu, les agriculteurs ont manifesté ce matin devant les préfectures pour dénoncer ce qu'on appelle l'agribashing, c'est-à-dire les accuser d'être coupables de beaucoup de choses et notamment de polluer à cause des pesticides.
Absolument,
voilà, plusieurs maires ont signé des arrêtés pour interdire les épandages à moins de 150 mètres des habitations. Arrêtés symboliques parce que seules les préfectures et donc l'État peuvent décider, mais ça fait parler du problème et ça met la pression sur le gouvernement. Il a d'ailleurs lancé en septembre, souvenez-vous, une consultation publique qui a récolté plus de 53 000 avis. Quelle est la bonne distance? 150 mètres ou 5 à 10 mètres, comme le recommande l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, et le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui en a reparlé ce matin même à la télévision en étant assez clair.
Nous n'irons pas au-delà des 10 mètres, tout simplement parce que ce ne sont pas des oiseaux de mauvaise augure qui vont dire 100 mètres ou 150 mètres, c'est la science. Après, pourquoi l'enquête publique a lieu? C'est pour savoir s'il y a d'autres propositions qui sont faites, des propositions alternatives qui s'étaient sur quelque chose, qui sont étayées sur quelque chose. Oui. Pas moi, je veux que ce soit 100 mètres ou 200 mètres.
Voilà, le décret et l'arrêté du gouvernement seront publiés d'ici le 1er janvier. Et alors, en réfléchissant à tout ça, moi je me suis demandé déjà si on savait vraiment finalement ce qu'était un pesticide. Mm-hmm. Et ben vous savez quoi, c'est pas si facile.
Un pesticide pour moi, ce serait
on entend pesticide, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça s'applique très précisément, j'en sais rien.
C'est des microbes bizarres.
Non, c'est des trucs qu'on met en dessous des arbres, là. C'est des produits qu'on met pour que la plante pousse plus vite. C'est ça, non?
Alors presque, on se rapproche.
Bah, c'est tous les produits chimiques qu'on peut retrouver un peu dans notre nourriture, non?
On met sur les aliments, sur les légumes, etc. pour pas qu'ils se fassent manger par les petites bêtes dans les champs, c'est ça?
Est-ce que t'as déjà entendu le mot pesticide?
Oui, moi j'ai entendu.
Et alors?
Ça tue les insectes.
Bah, pesticide, c'est une saloperie.
Alors, la définition exacte dans le dictionnaire, en tout cas, la voilà. Se dit d'un produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux et végétaux nuisibles aux cultures et aux produits récoltés. Les pesticides regroupent principalement les fongicides contre les champignons, les insecticides contre les insectes et les herbicides contre les mauvaises herbes. Bref, ça fait pas vraiment rêver.
C'est un mot qui vous évoque quoi, en fait?
Bah, ça reste
maladie, insectes...
C'est inquiétant. Enfin, moi, c'est pas un mot que j'apprécie particulièrement.
La peur, la crainte, des fois l'inconnu, parce qu'il y a des études contradictoires.
De toute façon, moi, pesticide, ça me fait penser à homicide, hein, la même terminaison, mais c'est vrai.
Mais oui, monsieur Cid, ça vient du verbe tuer en latin. Monsieur qui habite à la campagne, il en pense quoi du coup de la distance proposée par le gouvernement?
5 mètres, c'est ridicule. Aujourd'hui, il y a du vent. vous épandez là, ça va se déplacer à 10 mètres. Hein. Ça vole, moi je passe en voiture, des fois on est recouvert. Quoi.
Et il n'est pas le seul à trouver ça ridicule.
Bah, ça me semble un peu du foutage de gueule, parce que pas autant mettre 0 mètre.
Juste avec la pluie, ça va découler un peu, ça va aller dans les nappes phréatiques et ça va forcément se répandre. Donc,
Un coup de vent et on respire tout ce qui passe là, donc ça sert à rien en fait.
Que ça soit 5 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres, c'est hypocrite et c'est pas du tout suffisant.
Voilà. Ceux qui ont dit il y a plus de 150, je sais pas quoi là. C'est eux, c'est une bonne initiative de leur part.
Alors vous entendez, eux sont lycéens, il y avait aussi des étudiantes, une mère de famille, un père de famille encore avant, cousins d'agriculteurs même, et les enfants. Bref, j'ai essayé de balayer toutes les générations. Il y a aussi Nadine, elle disait tout à l'heure, les pesticides, c'est une saloperie.
J'ai 87 ans, alors j'ai vu pas mal de choses. Là, ce sont encore des fonctionnaires qui n'ont probablement pas été tellement au courant de l'agriculture.
C'est le ministre de l'Agriculture qui dit 5 mètres. Hein.
Oui, bah alors je trouve qu'il exagère. Moi, je trouve que toute la lutte pour l'environnement actuellement, c'est important. C'est numéro un.
Eh bien, merci beaucoup, Nadine.
De rien.
Allez, bonne soirée.
Bonne continuation et tous mes voeux pour le futur. Et je suis optimiste pour vous, les jeunes.
Et voilà, et rien que pour ça, eh bien, ça va aller complètement le coup de parler pesticides.
Absolument.
À midi, Mathieu.
On l'embrasse, Nadine. Voilà, Camille Passauvert qui est à réécouter, évidemment, sur franceinter.fr.
Vandana Shiva, cette histoire de mettre une distance pour faire des épandages dans les champs, donc entre les champs et les habitations, est-ce que vous trouvez que c'est justifié 10 mètres, 50 mètres, 150 mètres?
I think the first issue is because we have so many kinds of poisons, en fait, I prefer to just call them poisons.
Appelons-les des poisons, ce sera plus simple. Et nous avons une poignée de producteurs de poisons, appelons-les le cartel des poisons. Moi, on m'a obligé à étudier ce groupe de société. À Bhopal, il y a eu des milliers de morts lorsqu'il y a eu une fuite dans une usine à Bhopal en 1984. Il y a des gens qui sont encore en train de mourir à Bhopal, il y a des enfants empoisonnés. Donc, après mes études, je me suis engagé à promouvoir l'agriculture non violente, sans produits chimiques, sans pesticides. La productivité est meilleure, il y a beaucoup plus de récoltes. On n'a pas de pestes ou de nuisibles. Les nuisibles ne sont pas nuisibles. Là aussi, vous voyez, il y a la résistance qui est un processus en chaîne. C'est pourquoi il faut produire des plantes résistantes avec évidemment des OGM. La toxine est libérée, évidemment ça tue les organismes dans le sol, 60% des organismes du sol dans les cultures BT sont mortes et il n'y a pas de pollinisateurs dans ces champs. Les agriculteurs meurent, les insectes meurent, les animaux meurent, les produits ne sont pas bons et ça ne contrôle pas les nuisibles. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des super mauvaises herbes qui dominent tout, mais aussi il y a des situations où il y a des victimes du cancer qui sont en train de faire des procès à Monsanto, Bayer aujourd'hui, et la question de la sécurité fait l'objet de décisions par les cours de justice. Et on donne des amendes à ces gens qui simplement tuent des gens. Donc, ces gens-là participent à cette économie. Il y a 200 000 morts par an qui meurent de ces poisons. Les insectes meurent. Vous connaissez tous l'Extinction Rébellion. Donc, 10 mètres, vous rigolez ou quoi? C'est irresponsable. C'est pas de la science, c'est de l'absurdité.
Vandana Shiva est donc l'invité de la Terre au Carré. Vous lui posez toutes vos questions en direct au 01 45 24 7000.
Do 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 do
Summer Girl, c'était Haïm à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Vandana Shiva, 1%, ce livre paraît rue de l'Échiquier, reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches, et vous dialoguez avec elle justement au Standard de France Inter et sur franceinter.fr. Jeannette, vous êtes en ligne avec nous au Standard, bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour.
Et on écoute votre question.
Je vous remercie d'avoir invité cette dame. J'ai été interpellée par le titre de son livre. Effectivement, une poignée de milliardaires confisque toutes les ressources, y compris humaines, nous a-t-elle révélé, pour leur intérêt privé. Leur justification était qu'avec la théorie du ruissellement, tout le monde s'enrichisserait. On constate, et son livre, son titre en tout cas le prouve, le contraire a une allure vertigineuse, que de plus en plus de riches et de plus en plus riches et de pauvres. Et une grande majorité de pauvres. Alors j'aimerais qu'on passe du constat à la neutralisation de ce système mondial, et je voudrais savoir quelles sont les solutions que votre invité propose.
Merci.
De façon concrète pour que tous les peuples s'emparent de ces solutions et mondialement impose enfin le bien commun.
Merci Jeannette pour cette question. Alors justement, évidemment, il en est question dans l'ouvrage, puisque Vandana Shiva, vous proposez 3 pistes d'action pour contrer ce pouvoir des 1%. Hein. Et vous inspirez beaucoup de Gandhi d'ailleurs pour ça.
Notre nourriture, nos semences, le système de vie, cela fait partie de ce que s'approprient ces gens qui veulent vivre de leur rente. La solution, c'est ce que nous avons fait, nous, créer des banques de semences, donner les semences entre les mains des paysans, travailler avec les semences pour faire des croisements avec des priorités à la résistance et à la qualité des semences. Il faut intensifier par la diversité et pas par les produits chimiques. Après, les guerres, l'agriculture industrielle semblait nous dire que sans produits chimiques, on ne pouvait pas avoir de nourriture. En réalité, avec les produits chimiques, on a moins de nourriture. Donc, il faut veiller à la biodiversité. Je vous parle d'agroécologie. Nous devons revendiquer notre droit au système alimentaire, qui est le nôtre. Il y a 3 sociétés qui s'occupent des poisons, et puis il y a 4 grandes sociétés qui nous font la malbouffe. Et il y a d'autres sociétés qui font de l'alimentation qui n'en est pas. Et ensuite, il y a les grands distributeurs, notamment à l'échelle numérique, Walmart et Amazon, qui vendent le tout. Et cela empêche les acteurs de l'économie locale de vivre. Nous devons faire vivre les économies locales, vivre les communautés. On préservera la biodiversité, on préservera la justice pour les paysans en ce faisant. Parce que dans ce système, 1% de ce que paye le consommateur va dans la poche du paysan. C'est pourquoi les paysans sont en colère. Les pesticides ne sont pas les amis des paysans. Les paysans, eux, sont en colère, non pas contre autre chose que le manque d'argent. Donc, 75% des maladies sont liées à une mauvaise alimentation, à des produits toxiques et à ces fameux poisons. Voilà des solutions concrètes. Travailler au niveau local, nous pouvons nourrir deux fois la population de l'Inde en préservant la biodiversité et nous avons aidé les paysans à gagner 10 fois plus d'argent en préservant la biodiversité et les semences et en regagnant leur pouvoir sur les connaissances et leur souveraineté en matière alimentaire et la souveraineté de leur propre métier.
Alors, on a une question sur Twitter par rapport à ça, Vandana Shiva. Vous dites que les pesticides donc, sont des poisons, mais ce ne sont pas forcément des produits chimiques. Les agriculteurs bio utilisent du cuivre et c'est un pesticide non chimique.
I think a good farm does not have pests,
and you don't need to use. Dans une bonne exploitation agricole, on n'a pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. C'est ce que nous faisons dans Nirvana, le mouvement que j'ai lancé après avoir vu les conséquences des poisons après Bhopal et dans le Punjab. Il y a des gens qui meurent du cancer dans le Punjab en raison d'une mauvaise alimentation et de ces produits chimiques. Lorsque l'on travaille avec les principes de la terre en agroécologie, on fait attention à la biodiversité. Lorsqu'on y a de la biodiversité, il n'y a pas de nuisibles. Nuisibles et les mauvaises herbes, ce sont des symptômes d'une mauvaise agriculture. La nature a des systèmes de régulation. Lorsqu'il y a beaucoup d'insectes, eh bien, il y a des. Ce ne sont pas des nuisibles parce qu'il y aura des animaux qui viendront manger les insectes. Et les mauvaises herbes sont dénommées ainsi par les fabricants de Roundup, par Monsanto, mais en réalité, il y a des herbes qui ne sont pas mauvaises et dont on peut se servir. C'est fait partie de la diversité. La diversité devient un problème lorsque l'on veut l'exterminer.
Vandana Shiva, deux questions d'auditeurs sur les OGM, justement. On va essayer d'y répondre rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. D'abord, cette question de François, il nous dit ceci. Si un OGM libre de droit, rendu disponible pour tout le monde, permettait de mieux nourrir les gens tout en diminuant la pollution, est-ce que vous seriez contre son utilisation ?
En fait, il y a deux questions avec les OGM. Tout d'abord, le brevet sur le vivant et puis la question de la performance avec des cultures qui résistent aux chimies. Est-ce que ça accroît la productivité? Eh bien, non, ça fait baisser la production. Et notre expérience montre que le coton bio se porte mieux et les paysans gagnent 10 fois plus d'argent. Mais, élément plus important, cela repose sur une mauvaise façon de voir comment la Terre fonctionne. La Terre fonctionne grâce à la diversité. C'est une histoire d'économie circulaire. Lorsque l'on prend quelque chose, il faut le rendre. Et la Terre ne doit pas être une ressource génétique que l'on peut exploiter impunément parce qu'on crée la mort. Et c'est pourquoi il y a des super nuisibles et des super mauvaises herbes aujourd'hui. C'est justement la faillite des pesticides. C'est la mauvaise agriculture. Il faut améliorer la nutrition parce que la biodiversité nous montre des alternatives, beaucoup de solutions. Les chiffres sont extrêmement explicites. En fait, les performances de l'agriculture chimique sont mauvaises. Ce qu'il nous faut, c'est de meilleures connaissances, des connaissances scientifiques pour pouvoir collaborer avec la Terre de manière à produire une meilleure alimentation en plus grande quantité pour qu'il y ait plus d'espèces vivantes et pour que personne ne meure du cancer.
Voilà, et c'est vraiment ce combat pour la diversité qui est au cœur aussi de cet ouvrage, cette diversité biologique, culturelle, linguistique, hein, qui vous tient à cœur, Vandana Shiva. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi dans la Terre au Carré. C'est déjà terminé pour cet entretien. Il y avait d'autres questions très nombreuses. On renvoie donc vers cet ouvrage qui vient de paraître. Ça s'appelle 1% et c'est reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Et merci à Xavier Combes. Merci Xavier qui assurait cette traduction.
Un plaisir de travailler pour Vandana.
À très bientôt, juste après les informations, le reportage de la semaine avec Guy Vanctil en forêt amazonienne. Il en revient tout juste, il s'est rendu auprès des populations autochtones en lutte pour ne pas disparaître, avec en particulier toutes les difficultés qui se présentent avec l'arrivée de Bolsonaro. Vous l'entendrez donc auprès d'une famille dans un instant.
La Terre au carré.
Dans cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Gaël Giraud. C'est un scientifique du CNRS qui a lancé une pétition pour que les médias français proposent les articles concernant le dérèglement climatique en accès libre. On va en parler avec lui. Et puis enfin, notre invité découverte est le musicien Marc Cerrone, le roi du disco. Il sort un nouveau titre et un clip intitulé The Impact. Il viendra nous en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, un nouveau reportage de votre série Guy Vanctil. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Deuxième épisode avec les défenseurs de l'Amazonie brésilienne, les Ourou et Ouawa, qui luttent pour ne pas disparaître, ce peuple dont le premier contact avec le monde extérieur ne date que de 1981, Guy, hein, se sent aussi menacé que sa forêt.
Ouais, s'ils comprennent très bien les enjeux climatiques globaux liés à la déforestation de l'Amazonie, pour les Ourou et Ouawa, qui patrouillent avec arc et flèche, on l'a entendu hier, pour repousser bûcherons et éleveurs, le problème est beaucoup plus immédiat. Il en va de leur survie en tant que peuple, car leur destin est intimement lié à la gigantesque réserve de près de 2 millions d'hectares dont ils ont la charge et dont ils dépendent.
C'est une clairière dans la forêt, on est sous une espèce de paillote en palme. Et c'est le matin, les aînés sont au champ, les enfants sont à l'école. Et là, il y a la grand-mère Borea qui est sur son hamac et avec une petite tige avec une aiguille au bout. Elle est en train de fabriquer un collier, des petites perles.
Bonjour. Bon après-midi.
Dans l'ancien temps, nous vivions là-bas, dans cette direction, à l'ouest d'ici. Et avec ma famille, on se déplaçait beaucoup dans la forêt. On marchait beaucoup. Et ensuite, on s'arrêtait pour construire une maison et lancer des plantations. Et après, on se remettait en marche. Et c'est comme ça qu'on vivait, à toujours marcher dans la forêt, à s'arrêter un moment, construire une maison, planter, puis repartir. Tout le temps.
Ça, c'était avant la rencontre avec la société moderne, la société des Blancs, comme vous dites.
Quand j'étais enfant, je me souviens, j'étais dans le hamac réservé au rituel quand on devient une femme. Et ce soir-là, les Blancs ont envahi notre village, vers Alto Jaro. Ils avaient des armes et ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Au milieu des coups de feu, tout le monde courait dans tous les sens en criant. On essayait de s'enfuir, mais ma famille a été touchée. J'ai juste réussi à courir dans la forêt pendant toute la nuit. Et les autres ont été tués à la machette. Et ça fait encore mal aujourd'hui.
Et là, elle montre dans son dos. Ah ouais, il y a deux grandes cicatrices.
Et quand je pense à mes cicatrices, j'ai peur que les Blancs reviennent nous attaquer. Je ne veux pas que les Blancs viennent détruire notre terre.
Pendant ce temps-là, il y a les enfants qui jouent à côté pendant que la grand-mère est dans le hamac.
On voit une des jeunes femmes du village qui vient de ramasser un filet de pêche. Elle va à la rivière pour pêcher. On peut peut-être l'accompagner.
Les peuples indigènes et les défenseurs de l'environnement vont-ils réussir à maintenir la pression sur le président brésilien? Rien n'est moins sûr.
Alors on s'enfonce dans les sous-bois là. On a quitté la clairière du village. On arrive près d'un petit cours d'eau. Et il y a un petit garçon qui nous attend avec le filet.
Alors on enlève les chaussures et on marche dans l'eau en espérant. Oh, elle est tiède. L'eau est assez basse là parce qu'on n'est pas à la saison des pluies. Il y a plein de petits bassins. Donc on saute d'un rocher à l'autre. Enfin, on saute. Eux sautent. Moi, je me traîne. Moi, j'avance là. Tout doucement et eux, ils sont super rapides. En sautant de pierre en pierre, de rocher en rocher. C'est vraiment un environnement génial. Petite rivière qui passe, petit torrent. Et tout autour, des murs de végétation. Ah, on fait signe, là-bas il y a quelque chose. Hop, on jette le filet. Et après on tire pour voir ce qu'il a attrapé. Non, chou blanc pour l'instant. Ah, on se moque de lui parce qu'il a raté son coup, le petit. Et comment tu t'appelles?
Tebou.
Tebou.
11.
11 ans. Et dis-moi, est-ce que dans cette rivière-là, on est en train de marcher depuis un moment dans l'eau, est-ce qu'il y a des trucs qui piquent, des trucs qui mordent, des trucs qui font mal?
Oui.
Il faut faire attention, t'as pas peur?
Non.
Et est-ce que t'as déjà vu les assauts de ceux qui viennent pour défricher les terres qui sont les vôtres? C'était terrible parce qu'ils étaient en train de détruire la forêt et de couper les arbres. Et toi, t'as pas eu peur?
Oui, un peu.
Ah, un peu peur quand même.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce que tu penses là des grands du village qui sont prêts à prendre les arcs et les flèches et qui patrouillent dans la forêt? Toi, tu voudrais le faire plus tard quand tu seras un peu plus grand?
Si, je crois que c'est si. Cuidado de la forêt.
Ouais, je veux devenir comme eux et protéger la forêt.
Cuidado dos animais que vivem, né?
Protéger les animaux qui vivent, cette eau aussi où on est.
Porque no mato é melhor, porque no mato não precisa comprar carne, pescar, assim.
Ah bah oui, parce que dans la forêt, on n'a pas besoin d'acheter de la viande ou du poisson, il suffit d'aller chasser et de pêcher pour avoir tout ce qu'on veut.
Si, é bom.
Eh ouais, faut retourner pêcher, il reprend son filet. C'est le repas de ce soir qu'on va chercher. Et sinon, c'est régime.
Vous avez bien mangé quand même, Guy,
ouais,
apparemment.
Oui, mais c'était régime, j'ai fait fuir les poissons, je vous l'avoue.
Les ourous et wawa qui ont déjà failli disparaître, hein, décimés par les attaques et les maladies des blancs.
Oui, ils n'étaient plus que 89 en 93 et ils sont 130 aujourd'hui. Et on peut leur envoyer des messages de soutien sur le site de l'émission via leur association qui s'appelle Canidé. La semaine prochaine.
Que raconte-je?
Demain, on part retrouver un autre peuple amazonien, les souris, qui plutôt que se replier, eux ont choisi de prendre les devants en tentant de jouer les règles du marché global.
On vous retrouve demain et en attendant, on peut réécouter ce reportage sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Et nous partons à Dublin, où nous attend Gaëlle Giroux qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs à Dublin, Gaëlle Giroux?
Je fais la formation comme jésuite, parce que je suis également prêtre jésuite. Et donc, la dernière étape de la formation jésuite, c'est de se plonger dans la tradition de l'ordre avant de prononcer les derniers vœux.
Alors, on va parler de science et de dérèglement climatique avec vous, puisque vous avez publié le 1er octobre une pétition adressée aux médias français en leur demandant que les articles concernant justement le climat soient en accès libre. 28 600 personnes l'ont déjà signé. Dites-nous, comment est venue cette idée exactement?
L'idée, elle est simple, c'est que d'une certaine manière, nous recevons tous énormément d'informations constamment. Il y a un travail de tri à faire qui est compliqué. Et en particulier sur le climat, il y a énormément d'informations, je pense, qui échappent à la plupart de nos concitoyens. La plupart d'entre eux, je pense, ne savent pas, ne prennent pas la mesure de la gravité du changement climatique qui a lieu en ce moment même. Par exemple, beaucoup ne savent pas que la malaria est en train de remonter de l'équateur vers le pôle Nord, qu'elle est déjà arrivée en Italie, qu'elle va affecter la France dans quelques années. La Banque mondiale estime qu'il y aura 5 milliards de personnes affectées de la malaria en 2050. Bon. Et puis, du côté des bonnes nouvelles, il y a aussi plein d'informations qui sont extrêmement utiles pour tous ceux qui sont engagés dans la transition, qui les échappent. Par exemple, on ne sait pas que l'Indonésie a mis fin complètement à toutes les subventions publiques aux carburants fossiles. Or, ces types d'informations sont absolument vitales pour que la totalité du corps social en France, en Europe et ailleurs, partout d'ailleurs, se C'est le délai sur transmission.
Gaël, je suis désolé de vous couper la parole parce qu'on a un problème de liaison qui fait que vos propos sont très hachés. On va essayer de vous rappeler, peut-être même trouver un autre numéro de téléphone pour pouvoir poursuivre la conversation parce que là, c'est vraiment très difficile de vous suivre. Et ce que vous avez à dire sur le sujet nous intéresse. Donc, on va faire une petite pause avec Mathieu Chédid et on vous rappelle juste après. À tout de suite.
La maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit. Croise le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Happy. Et joue plus au chat, à la souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, que tu souris. Voilà ma seule terre. Absence. La vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois,
c'était Mathieu Chédid. Camille, on essaie de retrouver Dublin.
Allez, on repart à Dublin avec Gaël Giraud.
Voilà, qui est en ligne avec nous. Bonjour Gaël.
Re-bonjour.
Oui, bonjour.
Vous m'entendez mieux ?
Voilà. On vous entend très bien, apparemment. Alors, vous étiez en train donc de nous expliquer l'objet de cette pétition que vous avez lancée le 1er octobre pour les médias français en demandant la gratuité, l'accès libre en tout cas, de tous les articles concernant le dérèglement climatique parce que vous nous disiez, au moment où ça a coupé, que le climat et la biodiversité, ce ne sont pas des sujets comme les autres pour vous, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ce sont des sujets qui sont donc pour lesquels il est absolument indispensable qu'on ait la mobilisation de toute la société, parce que ça n'est pas un sujet réservé à des experts, et pour lesquels il est indispensable que tout le monde, ceux qui sont habitués et ceux qui ne sont pas habitués à aller sur Internet, puissent avoir accès à l'ensemble des articles qui sont disponibles sur cette question, de manière à ce qu'on ait un vrai débat démocratique sur la manière dont on organise la société française d'une société bas carbone pour 2050.
Et vous pensez que les gens qui ne vont pas voir les articles parce qu'ils sont payants éventuellement aujourd'hui, iront les voir s'ils sont gratuits? Vous ne pensez pas que c'est juste qu'ils ne vont pas les voir, tout simplement?
Non, mon expérience avec en particulier la jeune génération, c'est que la jeune génération est très très alertée sur ces questions et cherche par tous les moyens à se renseigner sur la façon dont aujourd'hui on fait de la permaculture dans son jardin, comment est-ce qu'on fait du compost, comment est-ce qu'on fait du tri intelligent des déchets, qu'est-ce que c'est que le recyclage. Et tout le monde est concerné par ces questions qui touchent tous les pans de notre existence. Et d'une certaine manière, personne ne peut être épargné par cet énorme sujet. Donc je pense que tout le monde, au contraire, est à la recherche de ce type d'informations.
Alors la pétition est un succès avec 28 600 signatures, on le disait, mais est-ce que c'est un succès du côté des médias que vous interpellez? Donc directement, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Parce que pour l'instant, c'est quand même pas la folie, hein?
Non, pour l'instant, j'ai pas de réponse claire officielle de la part des rédactions, mais j'espère qu'avec le nombre de signatures qui va augmenter, les rédactions vont se sentir obligées de donner une réponse.
Vous avez adressé la pétition à plus d'une trentaine de médias, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Et ils vous disent pas, quelque part, ça vient dévaloriser l'information, de la rendre gratuite ? Il y a quand même un enjeu économique, évidemment, pour beaucoup de médias.
Non, oui, bien sûr, il y a un enjeu économique, mais vous savez, les articles dédiés au climat, c'est 10% des articles qu'on produit en France. Et donc, les gens ne s'abonnent pas à cause du climat ou malgré le climat. C'est pas le sujet, en fait. C'est pas un sujet commercial, en vérité. Et je pense qu'en réalité, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que s'il y a plus de personnes qui viennent consulter des sites parce que les articles sont gratuits, ça va revaloriser ces sites. Et il est très possible, au contraire, qu'on ait un effet rebond, y compris sur les contenus payants de ces sites.
Bon, en tout cas, l'idée est très discutée. Dès qu'on en parle, c'est vrai que tout le monde a une idée sur la question. En tout cas, c'est pas simple, parce qu'effectivement, le sujet est absolument essentiel. Et puis, il y a effectivement cet aspect économique souligné par Camille, qui est absolument primordial. En tout cas, vous avez 28 600 signatures. Vous espérez en avoir combien, Gaël Giraud ?
Ah, je pense qu'on peut monter jusqu'à 100 000 et à partir de là, on va commencer à peser dans le débat. Oui.
Mmh. Donc il suffit d'aller sur cette pétition pour ceux en tout cas qui souhaitent évidemment la signer. Elle est en lien sur le rendez-vous Vos solutions pour la planète. Merci Gaël Giraud d'être passé nous en parler aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Je ne pensais pas vous recevoir un jour dans cette émission, Marc Serron. Bonjour.
Bonjour, mais je vous en remercie.
Ben, je suis très heureux que ce soit le cas. En tout cas, on a sauté sur l'occasion avec ce titre que personnellement, moi j'aime beaucoup, qui aurait même pu servir de générique à l'émission si on l'avait entendu avant.
Ça aurait été sympa.
Parce qu'il est très punchy et évidemment, il parle d'environnement, donc il y a une vraie cohérence et c'est l'objet de votre invitation.
Donc vous n'étiez pas là il y a 40, un peu plus de 40 ans.
Ah mais non, mais Supernature. Supernature, si, évidemment.
Il va
mais
vous raconter, nouveau... ça fait trois jours qu'il m'en parle.
Mais le nouveau, c'est The Impact, c'est quasiment le petit frère de Supernature en réalité, non ?
Ben, c'est la suite un peu logique. Je l'ai pas fait exprès, vous savez, quand on part en composition. Et puis j'avais le thème mélodique, j'avais ça y est ma construction. Évidemment, je porte comme tout un chacun l'importance de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'il faut faire. Et puis j'avais des manifs, je vous dirai pas de qui, j'avais des manifs. J'habite à Saint-Germain, j'avais des manifs sur le boulevard Saint-Germain, et je me suis senti une âme un peu révolutionnaire, un peu
activiste.
Et puis j'ai commencé à chercher quel était le plus proche de ce que je pense. Et puis j'ai la chance de tomber sur les messages de Jane Goodall et j'ai sauté sur l'occasion quoi.
La donc, primatologue Jane Goodall.
Tout à fait, qui est l'une des pour moi l'une des meilleures prêtresses de la chose et je me suis rapproché d'elle en mois de mars.
Ouais.
J'ai commencé à lui envoyer mes maquettes et ce qu'il y a ça, le fondement et ce qu'il y a ça, lui renvoyer Supernature qu'elle avait adoré et qu'elle connaissait. Ça a facilité et on a fabriqué.
Ah oui, même les chimpanzés dansent sur Supernature, on le sait ça, dans la forêt, c'est terrible. On va écouter The Impact, justement. Ça, c'est l'extrait qui vient de sortir et qui, justement, parle d'environnement, parce qu'on va décrire le clip aussi, qui démarre à Los Angeles, c'est ça ? On est dans cette ambiance...
Il y a plusieurs scènes, le clip réalisé par Laurent Perrol. Il manque le C qui change avec Serron, d'ailleurs, c'est pareil. Qui a réalisé des documentaires très primés aux États-Unis. Et en fin de compte, on s'est rapprochés et on a fait une condensation d'images de ces documentaires. Tout a été filmé aux États-Unis.
Un drone d'ailleurs.
Hein. Avec plusieurs drones, oui. Ouais. Et on voit des images de la planète, de ce qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle va probablement le passage qu'on va y passer. Et évidemment, l'humanité s'est toujours sauvée. Et enfin, je reste positif. Quant au public et aux gens du peuple, on est en train de se prendre en main. Regardez l'initiative de la personne que vous avez eue juste avant moi. Ce sont plein d'initiatives comme ça.
Faut pas
attendre les gouvernements. C'est à nous de faire bouger les choses.
Les effets désastreux de l'industrialisation. C'est ce qu'on voit d'abord dans la première partie du clip. Et puis ensuite, ça s'ouvre, effectivement. Là, c'est quand même le moment de respiration et de la beauté du monde aussi. C'est ça que vous montrez dans la deuxième partie.
Tout à fait, tout à fait.
Ça a été tourné où aux États-Unis alors ?
Oh, ça a été tourné en Californie, ça a été tourné vers les centres, donc j'étais pas au tournage bien évidemment. Ça s'est tourné sur quatre territoires américains.
Je crois qu'il y a l'Arizona aussi. Hein,
tout à fait, l'Arizona, c'est ce que je cherchais.
Un gros impact carbone sur le tournage alors, attention.
Non, avec des drones, non, non.
Avec
non,
des drones, ça va.
Non, non.
Ouais.
Mais il y a plein dans l'artistique d'action qui justement... aide à l'environnement de mieux se conduire. La production de grands événements, d'ailleurs, moi j'adore faire des concerts. Il y a même des festivals comme Wheel of Green qui font que les comportements se prennent en main et même les gens qui y vont, ils se comportent mieux, ils jettent plus les bières par terre. Ils ont l'impression, parce qu'ils sont dans cette mouvance, ça veut dire que on pourrait de plus en plus pousser les peuples à avoir des actions un peu plus correctes avec notre planète où on est juste de passage.
Donc on imagine, là on survole ces grands espaces américains et puis arrive la voix de Jane Goodall. Every single day we make some impact on the planet. We have inherited this planet from our parents. We've borrowed it from our children. We get together, then we can start to heal some of the scars that we've inflicted. Donc, elle a accepté d'enregistrer pour vous, Céron, Jane Goodall.
Ce sont des phrases que je me suis permis de prendre et de compiler par rapport à certaines conférences qu'elle fait constamment à travers le monde.
Oui.
Donc, il fallait une double autorisation. C'était plus facile de la faire enregistrer.
Mm-hmm.
Mais de choisir les mots et qu'elle en soit consentante, c'est ça qui était un petit peu fragile.
Qu'est-ce qu'elle nous disait, justement, dans les mots, elle dit notamment « Chaque jour, nous impactons la planète. Et si, ensemble, on arrive à se mettre à apaiser, à soigner les cicatrices qu'on lui inflige, eh bien, peut-être que ça ira mieux. » C'est ça qu'elle dit, Jane Goodall, dans les paroles que vous
Absolument,
avez choisies.
Absolument, et c'est tout à fait ce que je pense. Et je pense que beaucoup de gens pensent ça aussi.
Et The Impact, donc, on le disait, Marc Céron, arrive 40 ans après Supernature. On va se le remettre dans l'oreille, comme ça, juste pour le plaisir.
Mathieu, il est fan.
Alors dites-nous, ce titre, est-ce que c'est vraiment un hymne écolo? Alors, parce qu'il y a quoi derrière Supernature? Qu'est-ce que ça nous raconte au fond? Il y avait ce clip avec ces créatures bizarres et des têtes d'animaux.
Moi, j'avais
vous voyez jouer de la batterie dans une espèce de désert de sel.
Oui, parce que c'était un petit peu le texte de Lena Dovitch qui était étonnant d'ailleurs, ce qui était à l'opposé de mon style musical. C'était l'une des premières fondatrices de la musique punk,
ouais,
qui dénonçait tout sans donner de recettes. Et moi, j'avais un leitmotiv quand j'ai composé ça, l'île du docteur Moreau. Et donc, je lui ai donné, pour qu'elle suive le chemin, on se conduit mal quand on va se foutre en l'air. Et c'était un peu prémonitoire quand on voit ce qui s'est passé en 40 ans.
Ouais.
D'où la suite logique un petit peu de The Impact.
Ouais.
Et évidemment, le clip, là aussi, devait suivre entre les cheminées, les Rolls.
Ah oui, il arrive en Rolls dans le clip en plus.
Ben
avec
oui,
sa Rolls, il mettrait les 94.
Mais oui, parce que c'était pour dénoncer l'argent. C'était,
ouais. Ben,
vous savez, chaque artiste va chercher ses éléments comme il le pense, quoi.
Ouais.
Et du coup, vous faites quoi à titre personnel, au-delà évidemment de faire des disques pour lancer des messages? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien?
Pas assez. J'essaye de m'améliorer, de virer ma voiture, ou tout du moins quand je suis en voiture, ça fait longtemps que j'en ai plus, de plus balancer par la fenêtre des choses, de mieux me conduire, de mieux me nourrir, de tenter, évidemment, je suis une cacahuète.
Est-ce que vous avez
j'apprends, j'écoute.
Vous avez l'impression que l'environnement est en train d'influencer les artistes au point peut-être de créer un nouveau mouvement musical aujourd'hui? On en est quand même assez loin.
Oh, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que, à force, c'est en train de déclencher tout le business, tout ce qui gouverne les mondes. Ils sont beaucoup plus forts que les gouvernements. Toutes ces énergies qu'il faut changer, ces modes de fonctionnement dans le business, je pense que c'est ça qui va devenir une cheminée un peu aspirateur avec des intérêts, même si certains
mais
le font.
Mais ça pourrait être inspirant aussi d'un point de vue créatif, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la biodiversité, cette prise de conscience collective.
Inspirante dans quel domaine? Vous voulez dire artistique?
La musique, oui, justement, oui.
Bon, c'est pas parce que moi ça m'a inspiré, et pour être honnête, c'est pas l'environnement qui m'a inspiré de faire Super Nature, ou c'est moi qui ai voulu le diriger dans dans ce sens avec le texte. Restons modestes.
Sauf que vous avez été touché quand même par un contexte particulier. Est-ce
évidemment
que vous entendez aujourd'hui.
Évidemment,
hein,
que plus d'artistes prennent la parole et essayent d'en parler, c'est bien, mais restons modestes, nous sommes que des artistes.
Est-ce que je peux faire une très courte question qui n'a rien à voir avec l'environnement? Pourquoi tant de femmes dénudées sur vos pochettes d'albums?
Notamment, on le ferait plus aujourd'hui.
Notamment une qui a un peu traumatisé Mathieu.
Mais non, ça ne m'a pas traumatisé, mais mes parents avaient cette pochette chez moi.
Si vous permettez, la nature, on est nus, non?
Et pourquoi pas vous alors?
Ce serait pas bien à montrer.
Mais vous l'avez fait à l'époque.
Comment vous savez ça? Vous avez tout regardé?
Parce que mes parents avaient vos pochettes de disques, donc je voyais.
Oui, mais là vous me parlez d'un clip. Vous savez, on fait des bêtises, surtout quand on est jeune, et puis même il faut toujours continuer à en faire. D'ailleurs, même quand on est un peu plus âgé.
Un album est à venir, Marc Serron.
Un album est à sortir. The Impact est un extrait.
C'est ça.
Et ça sort, je crois, le 23 janvier.
Eh bien voilà, donc après
le nouvel album qui s'appelle DNA.
Après les fêtes de fin d'année.
ADN.
Merci beaucoup Marc Serron d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
C'était bien de pouvoir parler de disco un petit peu aussi.
Et j'aurais été ravi d'être votre générique.
Mais c'est loupé. Dans 20 ans quand on changera.
Ça, certainement.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt.